Bienvenue à toutes et tous dans l'émission Les Faramineux. Bonjour. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler de l'organisme Les Impatients avec rien de moins que sa fondatrice Lorraine Palardy qui sera avec nous. Les Impatients, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Ensuite, en deuxième partie d'émission, eh bien, Eva Meizen, que nous n'avons pas entendu depuis, on l'a pas entendu depuis longtemps, elle va nous proposer sa chronique des stupidités. Elle revient avec, donc merci à elle. Pour l'instant, nous partons en musique avec Baptiste W. Hamon qui nous chante « Revoilà le soleil ».
Revoilà le soleil, rien n'a plus d'importance. Trop couru, trop cherché, la jeunesse au rayon. J'ai 20 ans ce matin, debout comme un soleil. Un temps de grand hiver, je souffle sur mes doigts. Le temps n'est jamais beau, comme à notre réveil. Le visage qui brûle et la faim qui nous mord. J'enterre mes pensées dans des pots tout l'hiver. Fleurira qui voudra au printemps, au printemps. Mais je vis, mais je vais. Il fait froid, il fait clair. Suffit d'être amoureux de tout, de peu importe. Le temps n'est jamais beau, comme à notre réveil. Et je ne sais pas mordre, et je me fais les dents jusqu'à mon propre corps, en travers de ma route qui s'écarte et sourit. Et les filles sont belles, et puis je fais des bulles, et je parle tout seul, entre la peine et l'aube, entre vivre et savoir. Le temps n'est jamais beau, comme à notre réveil. Se planter face au vent, dire n'importe quoi, comme on manque d'humour, entre nos philosophes, nos prophètes assis et nos apothicaires. Je mange avec les doigts, je dis bleu, je dis vert. Mon regard effronté, la force de la neige. Le temps n'est jamais beau, comme à notre réveil. Et rire de tout ça, le plaisir du soleil, rien n'a plus d'importance que le son de mon cœur, la pierre des églises et les jambes des filles. Et chanter cette chanson-là qui nous donnait envie de vivre, de vivre.
Et nous voici de retour. Donc nous sommes avec Lorraine Palardy. Bonjour Lorraine.
Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors Lorraine Palardy, 30 ans Les Impatients.
Oui, 30 ans des Impatients.
Quel anniversaire.
C'est un bel anniversaire, d'autant plus que c'était pas nécessairement inscrit dans les astres, si vous voulez, qu'on était pour avoir 30 ans.
Comment puisque vous en êtes la fondatrice, comment toute cette aventure a commencé?
Écoutez, le projet a commencé dans un premier atelier en 1989, un projet pilote qui devait durer 10 jours et qui a perduré grâce à la collaboration de gens généreux et à la Fondation des maladies mentales qui a pris en charge le projet. Ce projet-là, au bout d'un an, malheureusement, ne pouvait plus continuer. Ce n'était pas dans le mandat de la Fondation des maladies mentales. Et c'est de là qu'a été créé la fondation s'appelait à l'époque, les impatients qui s'appelaient à l'époque la Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut du Québec.
Wow! C'est une sacrée belle aventure, dites donc. Hein?
Oui, c'est encore une belle aventure.
C'est toujours une belle aventure après toutes ces années. Parce que quand même, on voit, bon, c'est pas la première fois dans cette émission qu'on parle des impatients, et en même temps, on sait à quel point ça peut faire du bien. Il y a un pourcentage énorme de gens à qui ça fait du bien, de cette création des impatients, cette expression artistique de passer par là, de passer, bah, justement, on va en parler, par une exposition, par des expositions souvent, par des lettres. Il y a eu aussi les lettres d'amour, il y a eu tellement de choses qui sont faites.
Oui, au fil des ans, on a été un peu contraints d'être inventif, si vous voulez, parce que si on revient au départ des impatients, il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de subventions qui étaient, dont on était éligible parce qu'on était soit trop en art ou trop en santé. Alors, les ministères se lançaient la balle. Donc, il fallait vraiment être inventif. C'est de là qu'est venue la première édition, par exemple, du coffret, mais le mot d'amour, l'exposition, après ça, l'exposition par le mois d'amour, qui regroupe des artistes. Et je dirais que cette aventure-là, elle est encore possible aujourd'hui grâce aux artistes qui ont toujours supporté la cause des impatients. Alors, c'est vraiment des partenaires presque naturels des impatients. Et ça donne un sens, je pense, et à leur création et au fait que les impatients ont du rayonnement grâce aussi aux artistes professionnels.
Ah oui, complètement. Et puis d'ailleurs, y a des très belles peintures. Alors, on va en parler. On va parler de l'exposition Enchantée, Regard sur 30 ans de création et d'espoir. La collection des impatients, c'est-à-dire vous, à votre place, vous avez eu l'idée de faire cette exposition sur les 30 ans de toute la collection des peintures qui ont été faites. Des
non,
œuvres.
Écoutez, pour vraiment rendre à César ce qui est à César, c'est sur une invitation de Madame de Mévius, Isabelle de Mévius, qui est la directrice, la propriétaire de la galerie 1700 La Poste à Montréal, qui est une grande mécène. C'est elle qui nous a invités, qui a invité les impatients à présenter le travail qui s'est fait au cours des 30 dernières années. Donc, l'exposition est un peu... un regard sur la collection, donc beaucoup sur les œuvres qui ont été faites au départ, des œuvres qui datent de 20-25 ans, donc où malheureusement souvent les personnes sont décédées, mais qui font partie du corpus des 15 000 œuvres qui sont amassées. De
15 000 œuvres?
Il y a 15 000 œuvres qui sont amassées dans les espaces de l'hôpital Louis H. Lafontaine et qui sont préservées, entre guillemets, là, mais qui au moins sont conservées. C'était le but de la collection, je vous dirais tout de suite au départ. Le but, c'était de préserver les œuvres parce que à ce moment-là, les personnes qui fréquentaient les ateliers partaient avec leurs œuvres, les oubliaient dans l'autobus, les oubliaient la maison ou les détruisaient tout simplement. Et moi, je voyais passer à l'époque des œuvres qui méritaient vraiment d'être conservées. Et j'avais en ligne, en tête un peu le musée d'art brut de Lausanne, et je me disais, mon Dieu, on a un trésor ici, et il faut l'exploiter. C'est un peu le début de la collection, et c'est ce qui est présenté maintenant au 1700 La Poste, et c'est vraiment un lieu magnifique.
Lorraine, quand on parle des œuvres, on parle... seulement peinture, ou on parle peinture et sculpture aussi, parce que j'avais vu à un moment donné...
Oui, c'est ça. Oui, peinture et sculpture aussi. Dessin, peinture, sculpture, oui.
J'avais été...
En trois dimensions, si vous voulez.
J'avais été voir une collection de peinture et de sculpture, et j'avais été très emballée par certaines sculptures que j'avais vues aussi, que je trouvais magnifiques.
Oui, vous savez, le talent est au rendez-vous.
Oui.
Disons que le talent est peut-être pas le mot juste. C'est un geste créateur et ce qui ressort est toujours vrai. et pas dans la séduction, et pas dans la mode, dans le goût du jour, ni dans la
Oui,
mode.
c'est ça, oui.
Alors, c'est peut-être ça qui touche tout le monde aujourd'hui.
Oui. Oui, c'est ça. Je voyais des expressions. Alors, j'avais déjà vu des peintures. C'était la première fois à ce moment-là que je voyais des sculptures et j'avais été touchée par des souffrances qui ne s'exprimaient pas par des mots, mais s'exprimaient à travers une sculpture. Certaines,
Oui,
en tout cas.
la souffrance est aussi étonnamment beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. C'est vraiment étonnant de voir que la résilience, c'est un mot maintenant que tout le monde connaît, mais j'ai
Oui,
l'impression que ce mot-là,
il est un peu galvaudé.
il aurait pu être inventé par les personnes qui fréquentent les impatients, par les impatients, parce que ils ont une force et créatrice et de résilience, et c'est peut-être le dessin vient en aide, l'art vient en aide sûrement dans ce sens-là.
Oui, ça leur permet d'expliquer plein de choses. Quand
Oui.
j'avais vu ça, oui, je parlais de souffrance, mais il y avait plein de choses très belles ou de rire, de sourire à travers tout ça.
Oui.
Et en même temps, une façon de s'exprimer quand on n'a pas toujours la parole pour ça, on peut s'exprimer à travers la peinture et à travers la sculpture, et c'est absolument magique.
Oui, puis je pense qu'il y a disons surtout que la philosophie qui est encore en place, parce que je dois dire que moi, ça fait déjà 7 ans que j'ai pris ma retraite, donc je suis
Oui.
là, je suis encore présente là, pour donner un coup de main, mais c'est mon fils Frédéric Pallardy qui
Oui,
a pris la relève
qu'on a eu
et
souvent.
la philosophie reste la même, c'est-à-dire qu'il faut, c'est vraiment dans la liberté totale qu'on agit. Donc, quand on vient aux impatients, on vient dessiner ce qu'on veut, quand on veut.
Oui,
Alors, il y a comme
je
une
comprends.
grande liberté qui fait du bien aussi pour des gens qui sont souvent pris en charge et par le système de santé et par toutes sortes d'autres contraintes là, qui les affligent.
Bien sûr. Lorraine, on va faire une petite pause musicale et on revient avec vous tout de suite après ça, d'accord?
Avec
On va
plaisir.
écouter Nicole Croisi qui nous chante
Donc,
Parlez-moi de lui.
puisque
oh mon Dieu,
là-bas
quelle belle
vous
chanson!
êtes Asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord. Et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie? La liberté. Parlez-moi de lui.
Il nous parle de toi.
Comment va sa
Il
vie
ne pense qu'à toi.
dans ces pays lointains?
Il nous parle de toi.
Est-il heureux enfin?
Il ne pense qu'à toi.
Est-il vrai qu'il habite sur le port? A-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé et il me paraît triste et fatigué. Sa vie et qu'il le sait. Vous a-t-il demandé de me parler? A-t-il besoin de moi à ses côtés? Parlez-moi de lui.
Il nous parle de toi.
Je n'aime que lui.
Il ne pense qu'à toi.
Depuis, c'est le silence.
Il ne pense qu'à toi.
Alors nous voici de retour avec Lorraine Palardi. Donc Lorraine, revenons un petit peu sur les impatients et oui. Sur cette exposition. Donc au niveau de l'exposition, est-ce que c'est vous, parce qu'il y en a un certain nombre, comme vous nous avez dit en début d'entrevue, est-ce que vous avez fait seul le choix de ce qui serait exposé?
Non, pas du tout. Écoutez, je dois dire que j'ai été la première à visiter l'exposition, une des premières hier, puisque c'était le lancement hier. En tout cas, la conférence de presse concernant oui. l'ouverture de l'exposition, mais je n'ai pas participé donc au choix. Le choix s'est fait ici avec une personne qui travaille à la collection, qui s'appelle Karine Philippon. Et aussi surtout avec les conservateurs de la Poste, donc les gens de la Poste ils sont habitués de monter des expositions. Donc c'est vraiment une vision commune entre ici, si vous voulez, les gens de la collection et les gens de la Poste, cette exposition.
D'accord. Donc la soirée de demain, le 5 mai,
oui.
Donc ce sera il y a un hommage à Clémence Desrochers.
Oui.
Voilà, pour son implication. À titre de marraine oui, de l'organisme, hein, c'est ça?
Oui, absolument. Clémence est marraine de l'organisme. Je dirais que je l'avais nommée à vie depuis, depuis le tout début, donc il y a déjà presque il y a 30 ans. Alors Clémence est toujours là et on est très heureux de lui rendre cet hommage qui est vraiment mérité. C'est un personnage, Clémence Desrochers, et je pense que ce personnage-là, elle a involontairement peut-être, mais orienté le sort des impatients, le destin des impatients, par sa création, sa folie, sa liberté de penser, son esprit libre. Je pense que c'est un peu, elle a été pour moi, qui était en poste à l'époque, une grande inspiration.
Ben c'est très beau. Alors, donc, ça va être exposé au 1700 La Poste. Hein. Donc, comme vous oui. le disiez tout à l'heure, vous avez été invité.
Oui, absolument. Les gens sont invités à partir du 6, surtout. Donc, le 6, l'entrée libre, c'est ouvert les week-ends. Donc, c'est un espace magnifique. C'est sur la rue Notre-Dame.
Vous connaissiez déjà cette galerie?
Pardon?
Vous connaissiez déjà cette galerie?
Oui, je connaissais cette galerie pour l'avoir fréquentée à plusieurs reprises parce que je connaissais certains artistes qui avaient exposé là. Et je connaissais de réputation Madame de Mévius, qui est une grande mécène à Montréal qui offre ce lieu-là complètement, gratuitement aux artistes et qui est d'une générosité vraiment extraordinaire. C'est une très belle rencontre pour les impatients.
Donc, l'exposition a lieu du 6 mai au 19 juin. Donc,
exactement.
On a le temps d'aller le voir au 1700 La Poste. Donc, c'est 1700 rue Notre-Dame-Ouest. Voilà.
Exactement. Oui.
Donc, il faut le savoir. On a, je lisais ça le 26 mai, mon premier atelier avec les impatients. Qu'est-ce que c'est?
Le premier atelier avec les impatients, c'est un clin d'œil puisque Madame de Mévius nous permet de faire un événement bénéfice. Donc, c'est un événement bénéfice qui va avoir lieu pour une centaine de personnes invitées à créer, si vous voulez, un jeu. C'est un tableau collectif. Mais c'est un événement bénéfice à un coût de 200 $, je pense, la personne. Alors, c'est malheureusement pas pour le grand public. Par contre, le 9 juin, on doit avoir une table ronde.
Oui, c'est ça.
Et là, la table ronde, par contre, il va y avoir des invitations. C'est une table ronde dont le thème, c'est dialogue.
Mais le thème de la création et de l'humain, c'est très important, ça.
La création et l'humain, et le titre, maintenant, c'est dialogue. Donc, c'est cette rencontre, si vous voulez, ce dialogue qui peut exister entre les impatients, les œuvres et les créateurs, et les personnes. Donc, c'est un peu ça qui va être élaboré avec des spécialistes de l'art, des gens, des artistes, du milieu. On travaille à l'organisation de cette journée-là présentement.
Il y aura des impatients qui seront invités aussi?
Oui, il y aura un impatient aussi, oui.
Parce que je pense que, je ne pense pas être la seule là-dedans, mais quand on va voir l'exposition et qu'on en entend parler, comme pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment grand-chose sur la santé mentale, ça change la donne hein, quand on vient voir les impatients.
Je pense que oui, je pense que ça a été peut-être ça la réussite, peut-être la plus marquante, entre guillemets, c'est d'avoir réussi à beaucoup démystifier ou déstigmatiser les personnes et les problèmes de santé mentale en misant sur la qualité des œuvres, de la qualité des personnes, leur potentiel, au lieu de parler uniquement de leur maladie. Je pense qu'on oublie ici aux impatients, on n'a pas de plan de soins direct, on ne connaît souvent pas le diagnostic. Alors, c'est des personnes qui viennent s'exprimer, c'est leur côté positif qu'on met de l'avant. C'est peut-être ça qui a aidé.
Et en même temps, pour ceux qui sont là et qui viennent les voir, le fait de les entendre, le fait de participer à tout ça, défait les nœuds de la peur qu'on peut avoir de la santé mentale, pour certains, des fois.
Oui,
et comme ça, après, quand on sait ce que c'est, ça permet plus de dialogue. En tout cas, ça permet déjà le dialogue,
ça
à la base.
Ça permet le dialogue, je pense que oui, parce que enlever tout ce que la société a mis comme tabou, en tout cas qu'on a tout dans l'inconscient, je veux pas là sur la santé mentale.
Bien
elle
sûr.
A eu l'eau large longtemps, la santé mentale. Hein? Alors tous les problèmes venaient souvent des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Malheureusement, il y en a encore, mais je pense qu'aujourd'hui on a un regard bien différent de cette problématique-là. Et on sait surtout, il y a beaucoup d'espoir, donc on sait que les gens en sortent, les gens guérissent, les gens vont mieux, les gens peuvent avoir une vie normale, même avec un problème de santé mentale.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que merci pour avoir créé ça. Donc, je vous remercie aussi pour l'entrevue. Merci beaucoup,
plaisir.
Lorraine Palardy. Donc, on le redit, c'est du 6 mai au 19 juin, 1700 rue Notre-Dame-Ouest, dans la galerie 1700 La Poste. Les heures d'ouverture du mercredi au dimanche, de 11h à 18h. L'entrée est gratuite. Donc, voilà. Vous pouvez téléphoner au 514-842-1043 et écrire à reception@impatient.ca. Merci
Exactement.
Beaucoup.
C'est des bonnes informations. Merci beaucoup d'avoir donné du temps et de prendre la parole pour les impatients. Merci.
Avec plaisir. Merci, Lorraine Palardy.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
On part en musique avec Avril Jensen qui nous chante Van Gogh.
You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You could have been the brightest star, but I guess you were just too shy. You've just seen too many ghosts of people you don't know. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You don't stare at the sky, you just stare at the window. You don't see me smile, you just wish you could go to someplace far away instead of staying in bed, always painting the same hallway. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You could have been the brightest star, but I guess you were just too shy. You've just seen too many ghosts of people you don't know. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. What you think, 'cause I know what it's like when your mind aches and to feel so alone that your heart breaks. Tired eyes when the landscape goes by. Can't you hear what's next and make it last? You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You could have been the brightest star, but I guess you were just too shy. You've just seen too many ghosts of people. could have been the brightest star, but I guess you were just so shy. You've just seen too many ghosts of people you don't know. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night.
If you had ever learned to let go, if you had ever tried to let show, all the pain, all the pain every day, all the pain wasted. If you had ever learned to let go, if you had ever tried to let show, all the pain every day, all the pain wasted.
Et voilà, donc restez avec nous. Dans un instant, on se retrouve avec Eva Meisen. Il y a longtemps qu'elle nous a pas rendu un petit peu plus intelligent avec sa chronique des stupidités. De quoi va-t-elle nous parler? Surprise, restez avec nous. À tout de suite, on se retrouve dans un instant. Et puis Eva, si tu nous entends, j'espère que c'est encore une chronique extrêmement intense dans laquelle on va apprendre plein de choses comme on le fait d'habitude, quoi. C'est toujours un plaisir. Voilà. Alors, à tout de suite. Restez avec nous. Merci.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Don't.
voilà, on vient d'entendre Mal Kitzing qui chantait Kali Enak. Bonjour Eva.
Eva Meizen,
bonjour. Écoute, excuse-moi, je suis un peu essoufflée, j'étais en train de danser à côté de mon fauteuil.
Je comprends bien.
Ça donnait de l'élan. Et Eva, ça fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu le plaisir de t'avoir sur les ondes, donc bienvenue.
Oh, merci.
Écoute, et de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Quoi vas-tu nous rendre intelligents ?
Grâce à ma chronique des stupidités où j'ai la réponse qui a la question.
Voilà.
Et comme tu le dis, pour commencer, Arlette, c'est vrai que ça fait si longtemps aujourd'hui que je n'ai pas fait de chronique des stupidités que je crains fort d'être devenue quelqu'un d'autre. Et cela m'inquiète tout particulièrement.
Pas possible.
En effet, ma dernière chronique date de la fin février et j'attendais avec impatience le mois de mars pour pouvoir parler de la journée de la femme ou de la journée internationale des femmes, comme la nomme l'ONU, mais le sort en a voulu autrement. Si chacun sait que je suis célèbre dans le monde pour ma stupidité, il faut que je vous annonce que j'ai eu la malchance d'attraper la Covid de manière un peu violente, et parmi les effets secondaires qui ne sont malheureusement pas répertoriés par la science, je crains fort avoir perdu mes capacités en bêtises et n'être capable tout soudain que de propos d'une extrême intelligence.
Je n'y crois pas une seconde. J'ai communiqué avec le virus, il m'a dit c'est pas vrai.
Quel est le problème en fait ? Le problème, c'est que je ne suis plus très sûre d'être capable de me comprendre et que je me retrouve dans un violent duel entre le nouveau et l'ancien moi-même, un peu comme si j'avais une dissociation de ma personnalité. Bref, aussi farfelu que cela semble vous paraître, il est extrêmement difficile de passer de la stupidité à l'intelligence sans passer par la case éducation. Mais nous n'allons pas nous étendre sur mon sujet clinique qui méritera sans doute une publication dans un journal scientifique un de ces jours et allons aborder un sujet beaucoup moins médical et beaucoup plus simple pour le moment. Et donc c'est là où il y a la question fatidique. Arlette, saurais-tu me donner la définition d'un neurodateur ?
Un neurodateur, c'est l'espèce de petite machine quand on a une voiture et qu'on met on met des sous dedans pour pouvoir rester un peu longtemps
C'est presque la définition du Larousse. Donc, lui le dit différemment, de manière un peu plus adulte, appareil horaire qui permet d'enregistrer un temps de présence de ta tête. Bon. Alors, tu vas me demander, Arlette, pourquoi je me mets soudain à parler de l'horodateur ?
Pourquoi te mets-tu soudain à parler de l'horodateur ?
L'horodateur pourrait-il avoir un lien caché avec la Covid et je viendrai ici faire une révélation sensationnelle ?
Ah bon ?
Attends, t'es impatiente. Ou serait-ce simplement parce que j'ai reçu une contravention après avoir oublié de mettre des sous dans la machine ? En fait, il n'en est rien. Même si c'est vrai qu'un jour, à Montréal, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une belle contravention sur mon pare-brise, alors que j'avais payé le rodateur. Mais ce n'était la faute ni de le rodateur, ni du fonctionnaire qui établit les contraventions, car en regardant de plus près, je me suis aperçu que j'avais payé pour la place d'à côté. Cela prouve que d'être spécialiste en stupidité coûte parfois un peu cher, mais quand on aime,
on ne compte pas.
Je me suis penchée aujourd'hui sur le rodateur car je vais te demander, ma chère Arlette, si tu sais qui a inventé le rodateur.
Alors là, absolument pas.
Ah voilà, je m'en doute.
Et à dire vrai, ça ne m'intéresse guère, mais...
Ah bah voilà, tout de suite, le mépris. Tu devrais pourtant ressentir en toi quelques petits soubresauts, voire des frémissements de chauvinisme.
Ah, donc, c'est un Français,
Arlette,
qui l'a inventé ?
Bravo Arlette, c'est une invention française.
Ça ne m'étonne pas.
Et si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'on fête les 50 ans de cette merveilleuse invention.
Ah d'accord.
Et oui, en 1972, mais ce sont des dates que ni toi ni moi ne pouvons connaître étant donné notre jeune âge, un ingénieur français qui s'appelle Maurice Fillon invente le rodateur. Imagine, que serions-nous devenus si cette machine n'existait pas?
On aurait fait des sacrées économies.
Impossible de payer une place de parking. Impossible de savoir à la seconde près si t'es arrivé au travail à l'heure ou pas. Enfin, bien que la pointeuse, celle qui trônait à l'entrée des usines, avait quant à elle déjà été inventée à la fin du 19e siècle. Mais imagines-tu la tristesse de nos vies sans un rodateur?
Ah, moi, j'en imagine plutôt la joie.
Ah ouais, non, je te reconnais bien là. Tout de suite, âpre au gain, voilà. Alors, la consolation est que cette entreprise française, bien qu'elle porte le nom de Flowbird, est établie à Besançon et permet à 650 personnes d'avoir un travail, ce qui est pas mal.
Alors c'est différent, vu sous cet angle.
Voilà, il y a toujours plusieurs angles pour regarder les choses. Et cette société est le leader mondial de l'eurodateur que 80 pays et 4500 villes dans le monde achètent. En fait, ils utilisent ces merveilleuses machines fabriquées exclusivement en France. Mais tu te doutes bien que cela attise la convoitise de beaucoup de monde.
Évidemment.
Car
et la concurrence.
Il n'est pas prévu, voilà, je pense, de cesser de faire payer les gens pour tout ou n'importe quoi. Cette entreprise est donc florissante, mais très inquiète car elle n'arrête pas de se faire acheter à prix d'or par des fonds spéculatifs. Alors, elle est rachetée grâce à des emprunts de plusieurs centaines de millions d'euros. Et les employés savent bien que c'est à eux de rembourser les intérêts de cette dette. Et ils se doutent aussi que le fonds spéculatif ne l'a acheté que pour pouvoir la revendre et faire une plus-value.
Évidemment.
Et se demandent à qui ils vont appartenir demain. Alors, pourrait-on dire qu'il est normal qu'une société dont le travail est de faire payer les gens se retrouve elle-même dans la surenchère des gains de pognon? Il faut dire que même si ça fait de la peine pour les employés, ça fait quand même un petit peu plaisir. Donc voilà que je me mets à faire la morale maintenant. Peut-être est-ce parce que je suis devenue hyper intelligente ou alors que nous sommes à petite distance du résultat des élections présidentielles françaises.
Ah bah maintenant on l'a eu.
Ah bah oui, non mais on est à petite distance du résultat.
Ah oui.
Je vous ai épargné une chronique sur ces élections.
Ah bah heureusement.
Vous ne pouvez pas vous rendre compte du bonheur que c'est d'y avoir échappé. Tu vois, on est du même avis. Vu mon état, ça n'aurait pas été de la tarte. Alors, si ma chronique vous a paru un peu décousue et par trop intelligente, c'est bien normal. Mais je vous promets que les effets secondaires de ma Covid sont en train de s'atténuer et que je sens revenir en moi jour après jour l'immense bêtise qui me caractérise et vous permettra de vous divertir dans de futures chroniques des stupidités.
Bravo, alors on part en musique et puis on te reparle tout de suite après de cette histoire de rodateur. Nous partons en musique avec Sébastien Lacombe qui nous chante La Vallée des Fantômes.
Parfois je tombe, la neige est tellement profonde, et l'hiver est éternel. Dans la vallée des chagrins, les morts sont parfois jaloux de la vie qui nous donne tout et de nos nombreux lendemains. Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, les souvenirs qui s'entassent? Dans la vallée des fantômes, je reconnais des visages qui se perdent et qui s'en vont dans les écumes de mes rivages. Dans la vallée des ténèbres, là où le passé célèbre les bons et les mauvais coups de nos trop courts rendez-vous. Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, les souvenirs qui s'entassent? Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où vois le temps, mes souvenirs qui s'effacent. Dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes. À faire encore trop de nouveaux décors, des vies qu'on s'imagine, la mort peut bien attendre. Je ne veux pas m'arrêter, hey, je ne veux pas m'arrêter, hey, 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 je ne veux pas m'arrêter, hey, je ne veux pas m'arrêter. Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, mes souvenirs qui s'entassent? Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, mes souvenirs qui s'effacent? Dans la vallée des fantômes, la vallée des fantômes, dans 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 la vallée des fantômes.
Alors, nous voici de retour avec Eva Meizen. Si elle est toujours là, tu es toujours avec nous, Eva?
Ben, malheureusement pour vous, oui.
Alors, écoute, laisse-moi te dire que j'ai aimé l'histoire de l'horodateur. Je ne savais même pas que c'était un Français qui l'avait inventé. Et de toute façon, ils se sont engrangés pas mal d'argent et ils risquent d'être mangés. Parce que tu sais ce qu'on fait aux petites entreprises, enfin aux entreprises moyennes qui gagnent bien leur vie? Eh bien, ils se font manger par des plus gros poissons. Souvent.
Oui, mais en même temps, ce sont des entreprises qui font payer les petits Pékins aussi.
Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que même si, comme toute entreprise qui se respecte, qui fait travailler un certain nombre de personnes, et c'est tant mieux, je ne pense pas qu'ils les embauchent à des salaires mirobolants. Enfin, on a dit qu'on ne parlait pas politique, hein, donc on ne va pas parler politique.
Mais non.
Est-ce que ce serait malvenu? Comment? Alors, comme toujours... j'aime bien avoir le cheminement tortueux qui est passé dans ton esprit pour avoir ce sujet-là. Tu le sais, j'aime bien te demander ça.
Mais je sais, tu me tortures à chaque fois. Mais là, c'est bon, j'ai l'excuse de la Covid, donc je peux dire n'importe quoi. Et tu me diras, ah oui, je comprends, oui, en effet, voilà. Donc, bah, le chemin tortueux, c'est qu'on fêtait les 50 ans. On fêtait les 50 ans de la Renault 5.
Mais bon, comment tu l'as su qu'on fêtait l'anniversaire de l'horodateur? Ah oui, moi, je ne l'ai pas vu passer.
C'est ça, moi j'ai mes petites informations secrètes.
C'est ça.
Bah, je l'ai vu quelque part dans la presse, en passant, je ne sais pas dans quel journal obscur. Je me suis dit quand même, c'est invraisemblable. C'est vrai qu'avant, on devait pouvoir se garer sans payer, et ça paraissait normal. Et maintenant, on paye pour se garer, et ça paraît normal. Oh. Et c'est un Français qui a trouvé le moyen de faire payer tout le monde dans le monde.
Et ça paraît normal. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, en même temps... je me dis que oui, ça devait être bien de pouvoir se garer devant sa porte.
Bah oui, et même ailleurs, sans être obligé de mettre des sous dans la machine.
Et tu dis que l'horodateur existe depuis les années 70?
72, oui.
72?
Ouais. Ouais.
Donc mon père a dû pouvoir se garer sur des...
Non, mais nous, on n'était pas nés, on sait bien. Tu veux dire ton grand-père, voire ton arrière-grand-père en 72. Soyons logiques, quoi.
Eva.
Tu essayes de nous faire passer pour des vieilles. Vraiment, c'est dingue.
Il n'est de vieux que dans sa tête et dans son cœur. Moi, ça va bien de ce côté-là. Et toi aussi, je pense, hein, puisque tu arrives toujours à t'en amuser. Donc, on n'a pas de problème pour la chronique des stupidités. Je veux juste te dire, et puis le dire aux auditrices, aux auditeurs, que nous avons quelqu'un ici qui t'a écouté, qui a aimé ce que ta chronique, il a beaucoup fait rire. Donc, tu vois, t'as au moins une auditrice.
Ah, non, mais écoute.
En dehors de moi, il y a Maurice, mais Maurice, lui, il est obligé d'être là. Donc.
C'est ça, et donc lui, il a pas du tout, ça lui a pas du tout plu, mais comme c'est son travail, il dit rien.
Il dit rien.
Ah, donc, j'ai du succès auprès de deux personnes.
Ah ben oui.
Ce qui est... Mais là encore, c'est la Covid. Avant, j'avais du succès auprès de personne, même pas toi. Et maintenant, grâce à la Covid, paf, je deviens mondialement connu par deux personnes. Tu te rends compte?
Mondialement connu, oui, tu peux le dire. Bah, tu peux oui. Le dire. Parce que je parlerai de toi en France lorsque j'y retournerai en vacances.
Et puis tu pourras parler en France de celui qui est français et qui a inventé le radiateur. Tu pourras briller dans les dîners en ville grâce à mes chroniques.
Ah, mais tu sais que tes chroniques vont faire un... J'espère que tu les as toutes gardées, mais de les avoir, puis de les réentendre, de les réécouter, parce que comme ça, je vais pouvoir faire mon intéressante en disant, je me rappelle encore de Gustave Eiffel, je me rappelle d'autres choses aussi. Donc...
Oui, mais est-ce que tu te rappelles de son nom?
Ah oui, non, mais pas... oui, je sais. Je
voilà, m'en... parce qu'il s'appelait Bockenhauser, oui, ou un c'est truc ça, comme oui. ça, la tour Bockenhauser.
Et là, non, c'était comme pas possible. Mais en même temps, il y a des choses que je vais réentendre et qui vont me permettre, comme tu le dis si bien, de briller en société en faisant croire que je lis énormément et que j'apprends tellement, tellement de choses. Et je ne dirais surtout pas que c'est passé par la chronique des stupidités.
Tu ne citeras pas tes sources.
Ah ben non.
C'est très laid. Ça, c'est très laid, Arlette. Ah non, oui, ça, je pensais...
Je suis désolée, mais beaucoup le font. Donc, moi, je vais suivre la pente la plus facile.
Ce que tu me déçois. Ce que tu me déçois. Je crois que je vais faire une chronique sur toi, si ça continue. Méfie-toi de la prochaine.
On verra bien. Je ne veux pas te mettre des idées malsaines dans ta tête qui est déjà assez bouleversée, donc on va en rester là pour l'instant. Donc merci beaucoup Eva, on se retrouve encore dans le mois de mai, hein, je ne sais plus quand.
Oui.
As-tu ta date? Non, tu n'as pas ta date, quand est-ce qu'on te revoit, histoire que les auditeurs qui auraient peut-être aimé écouter l'émission n'écoutent surtout pas.
S'ils veulent ne pas écouter, c'est le 25 mai.
Ah bah voilà, tu vois. Veulent...
Voilà, c'est le moment où éteindre Canal M, surtout ne pas écouter les faramineux, en tout cas pas la deuxième partie. Voilà, parce que faut pas priver les gens de la première quand même. C'est pas
ah bah oui, c'est vrai, faut
là,
pas priver.
Tout le monde doit être.
Mais oui, toi tu es bonne, tu es bonne. Alors rien que pour ça, restez auditrice et auditeur, restez pour écouter Eva le 25 mai. Merci mille fois.
Merci
Arlette. On te souhaite une excellente soirée et puis à la prochaine, hein. À bientôt.
À la prochaine.
Et là, on se quitte avec Oliver qui nous chante Good Morning Starshine.
Good morning, starshine.
Alors, merci à tous. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Lorraine Palardi. Merci à Eva Amezen. Merci Maurice Bolduc pour la technique et les chansons. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Et je vous dis bien à demain pour une nouvelle aventure. Voilà. Avec qui ? Je ne vous le dis pas tout de suite. Restez en ligne et puis vous verrez bien comment ça va se passer. Alors, à demain. Bye bye. Vous verrez, la surprise sera très jolie aussi. Au revoir.